R22, tout le monde, antenne des lendemains hybrides.
La question de fond, c'est qu'est-ce que ça implique pour la personne d'être dans un environnement artificiel? Alors, là, je ne sais pas, tout simple. Il y a deux mots clés, donc que la personne, évidemment, il faut qu'elle soit immergée dans cet environnement, première question, et après, est-ce qu'elle peut agir? Bon, techniquement, on parle d'interaction, hein, mais c'est des détails techniques, mais en fait, l'intérêt, c'est d'agir. Mais elle est quand même encore dans l'environnement réel. On voudrait qu'elle soit totalement dans l'environnement artificiel. Mais ce n'est pas possible, puisque évidemment, la personne a un casque, mais elle reste toujours dans la pièce où elle a mis son casque. Qu'est-ce que ça implique? Alors, ça pose des questions techniques, mais ça, on n'en parlera pas spécialement. Mais ce que je dis toujours auprès des spécialistes qui travaillent en réalité virtuelle, ça pose des questions sur le comportement humain dans ce monde qui est totalement différent du monde réel. Alors, au niveau sensoriel et cognitif, on a développé ça. Donc, moi, j'analyse ça à trois niveaux. Hein. C'est ma démarche, qui est assez connue par les spécialistes, mais qui est discutable. Hein. Bien sûr, l'être humain ne se décompose pas. Hein. Mais il faut bien voir qu'au niveau technique, c'est bien au niveau sensorimoteur, et qu'au niveau sensorimoteur, qu'on intervient. Bien sûr, la personne à différents étages. Alors, il y a les sens extraoceptifs, hein, que les gens connaissent. Par contre, ils connaissent moins les sens proprioceptifs. Et c'est donc là qu'il se pose une question. Les sens extéroceptifs, alors, j'ai fait une liste rapidement, mais vous connaissez assez bien tout ça. En fait, qu'est-ce qu'on va utiliser principalement en réalité virtuelle? Au niveau extéroceptif, on va utiliser la vision, l'ouïe, ça c'est classique, et des fois le toucher, hein, avec les capacités de toucher qui est un peu complexe. L'odorat, bien sûr, on pourrait l'utiliser, mais comme évidemment, ce n'est pas modélisable, numérisable, c'est assez dur à exploiter. Hein. Par contre, c'est la proprioception qui intervient. Donc les systèmes vestibulaires, qu'est-ce qu'ils vont détecter? Et les organes tendineux, les articulations. Et au niveau de la proprioception musculaire, est-ce qu'on va ressentir du poids quand on va manipuler ces objets virtuels? Est-ce qu'on n'en aura pas? Techniquement, ce n'est pas toujours simple à faire. Hein. Ressentir des efforts dans ces manipulations-là. Et bien sûr, le système visuel, ce que la plupart des gens ignorent un peu dans le public, mais pas vous, c'est que le système visuel ne sert pas qu'à voir, il sert aussi, hein, à se stabiliser dans l'environnement, à percevoir ses mouvements dans cet environnement artificiel. Et donc là, on a un problème assez compliqué, puisque sinon, c'est pas aussi simple que ça a l'air, c'est pas bien séparé. Et on a donc ce comportement qui fait qu'il y a un mélange et que nous, on intervient techniquement sur certains stimuli sensoriels, mais pas sur d'autres. Et on crée un environnement totalement particulier. Alors, si je découvre, en simplifiant l'extéroception et la proprioception, de l'environnement réel, on va mettre la personne dans un environnement artificiel, et s'il a un casque, au niveau de la perception de l'environnement extérieur, l'extéroception sera totalement dans cet environnement artificiel. Par contre, la proprioception va être partiellement dans l'environnement artificiel et dans l'environnement réel. Mais le but, c'est que la personne se sente totalement dans l'environnement artificiel. Alors, si vous n'avez pas forcément testé ou si vous avez testé, l'autre jour, c'était encore la semaine dernière, une personne mettait un casque et on la faisait descendre visuellement au fond de la mer. Et la personne disait, oui, je descends. Mais ce n'était pas qu'une illusion, c'est qu'elle sentait son corps descendre. De même, si on vous met le casque et on vous montre les images de l'aigle, du survol de la ville, votre corps, vous allez le sentir en train de voler. Malgré que votre système vestibulaire vous indique, inconsciemment bien sûr, que vous êtes en position fixe dans la salle réelle. Alors, vous voyez tout de suite la difficulté, et on va voir ce que ça implique, c'est que si on fait certains stimuli, si on fait une différence importante entre la proprioception extérieure, enfin, du monde réel, pardon, et la proprioception d'un monde artificiel, il y a des moments où le cerveau ne va plus rendre tout l'ensemble cohérent. Et ça va créer des problèmes, de la cinétose, Hein, donc le mal de mer, vous connaissez, hein, qu'on est dans un bateau, vous êtes dans la cabine, vous avez l'image qui est fixe par rapport à votre corps, et bien vous avez roulé et t'engage. Ici, on fait l'inverse au niveau des stimuli physiquement. On vous met un casque, votre corps est fixe dans la pièce, ou assis, par exemple assis, et on crée un mouvement qui est perçu visuellement. S'il n'y a pas trop d'incohérence, votre corps, vous le sentez, évidemment, être dans l'environnement artificiel. Mais il y a une ambiguïté à ce niveau-là. Et pour prendre un contre-exemple, alors, bien sûr, ça c'est au niveau sensorimoteur, mais au niveau cognitif, qu'est-ce qui se passe? Donc l'exemple classique que les gens font, on leur met un casque, hein, ou devant des grands écrans, c'est pareil, et on leur présente par exemple une poutre virtuellement, puis un ravin. Donc les gens ont peur de marcher, ils ont peur de marcher évidemment sur cet environnement, surtout sur le vertige. Ils sont là, tout en sachant qu'ils sont dans une pièce tranquillement. Et la plupart des personnes sont tellement prises par la vision, parce qu'évidemment la vision c'est le sens prépondérant hein, qui impacte en premier, les gens peuvent avoir le vertige. Et moi je leur dis, mais quand vous êtes dans cette situation-là, pensez à votre corps, oubliez l'image, et à ce moment-là, instantanément, vous avez le vertige. Est-ce que là, il faut faire l'expérience, je ne sais pas si vous suivez, parce que si vous n'avez pas fait l'expérience, hein, mais vous mettez le casque et vous laissez prendre par l'environnement artificiel, et là, on peut vous faire peur. Hein. Vous voyez, avec l'aigle, on vous fait tourner, vous êtes effrayé, vous pouvez avoir le vertige. Parce qu'on vous a mis une petite passerelle au-dessus d'un grand ravin. Mais si vous, de vous-même, vous dites, mais non, on vient de me mettre un casque, je suis dans une pièce, là, je suis dans la pièce là, vous n'avez plus de vertige. Donc vous voyez la représentation de ce qu'on fait de son corps, de son être, c'est évidemment un problème. Donc il y a une ambiguïté, il y a des incohérences. Alors bien sûr, il faut faire la différence entre les sensations, enfin je prends sensation au niveau des stimuli sensoriels qu'on reçoit, puisque vous savez qu'on en reçoit énormément d'une façon inconsciente, et la perception de ce qu'on a, hein, donc évidemment de ce qui est conscient. Et donc ici, le cerveau doit rendre cohérent, il essaye de rendre cohérent tout ça, et en général il y arrive, sauf si l'application est mal réalisée, et il intègre à ce moment-là sa proprioception dans l'environnement artificiel. Si la personne, ici c'est une application, donc vous voyez le monde réel, hein, et le monde virtuel, qui est vu par l'utilisateur, il peut évidemment, on tracte aussi les mains, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on représente de la personne, de son corps. Donc la personne voit ses mains, enfin, elle les voit d'une façon un peu particulière, puisque c'est schématisé, mais elle se sent bien dans sa voiture, en train de manipuler, malgré que son système vestibulaire lui indique qu'elle ne bouge pas, que son corps ne bouge pas. Alors bien sûr, si vous faites attention à la vidéo, enfin, je ne vais pas le passer, pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes, comme vous savez que le système vestibulaire détecte les inclinaisons et les accélérations, on va en rouler une droite. Donc évidemment, on vient en ligne droite à vitesse constante, le système vestibulaire, lui, en gros, il n'y a rien, il dit c'est bon. Hein? Mais si évidemment on s'amuse à faire des virages très serrés de montagne, beaucoup de montagne, bon, les gens auront mal de mer, hein? Ils ont mal de transport, le mal de l'activité virtuelle. Alors on peut faire aussi plus réaliste, si vous voulez, puisque là, on peut la faire marcher. Alors évidemment, la personne marche sur place, ce qui n'est pas habituel. Donc le système vestibulaire mais toujours et donne des mauvaises informations, mais la proprioception musculaire articulaire est correcte si évidemment on représente dans le casque de la personne là qui marche, on représente un déplacement virtuellement. Donc on peut, par contre, si on veut éviter tout ça, c'est on a des applications où la personne se déplace dans une pièce, on la traque dans la pièce, et donc à ce moment-là, il n'y a plus d'incohérence, puisque le système vestibulaire détecte les mouvements et les images correspondent. Les images de l'environnement virtuel correspondent au monde réel. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au niveau de la boucle perception-décision-action, vous connaissez, on va rendre le système cohérent, et ça, c'est le côté positif, puisque la vision est prépondérante, et chaque fois qu'on met un casque, les gens disent, bah oui, je me déplace, ou je fais un mouvement, et les gens disent pas, bah non, je suis resté assis dans ma chaise, sur ma chaise, sur place. Par contre, les problèmes, bien sûr, c'est que si on dépasse des limites qui sont connues, hein, les gens travaillent déjà sur les simulateurs de transport depuis 30-40 ans, donc il y a des règles qui sont connues par les spécialistes, mais ne sont pas connues par tout le monde, hélas, donc les gens qui font des fois n'importe quoi. Mais on connaît les limites pour que votre cerveau, en cohérent, tous les stimuli sensoriels qu'il reçoit, et pouvoir faire l'activité. Alors ici, le conflit, évidemment, c'est le conflit visuo-vestibulaire. Vous voyez donc que la personne va se déplacer, mais si vous faites attention, vous avez des traînées, vous avez des références pour l'environnement réel. Et ici, les incohérences sont plus facilement supportées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'utilisateur qui est actif. Vous savez que le fait d'être actif permet au cerveau de mieux anticiper les stimuli et donc de mieux accepter ces incohérences. Quand vous avez mal le transport en voiture, si vous êtes passager, vous aurez plus de, souvent d'une asymétose que si vous êtes conducteur. Parce qu'en conduisant, ou là, en bougeant la tête, votre cerveau va anticiper les stimuli et donc va plus les accepter, même s'il y a des incohérences. Donc c'est ces questions-là aussi qui se posent. Et là, il y a un autre. Alors, le premier, c'est évidemment une réalisation que l'on peut faire. Et ici, c'est un problème depuis 30-40 ans qu'on avait, maintenant qu'on arrive à résoudre. C'est le conflit d'un fait vestibulo-oculaire. Si évidemment, je regarde mon doigt, je bouge la tête, mes yeux vont bouger dans l'autre sens pour toujours voir le bout de mon doigt. Donc c'est ce système qui se fait au niveau du Weber rachidien. Il se fait en 15-20 millisecondes. Alors si maintenant vous faites la rupture de ce réflexe naturel, mais que vous créez une image de synthèse, il faut que votre capteur détecte le mouvement de la tête, envoie à l'ordinateur pour créer la bonne image. Et donc maintenant on arrive à faire ça en 20 millisecondes. Même avec des matériels bas de gamme qui vont arriver. Donc ça c'est aussi une avancée au niveau technologique. Mais pourquoi ? C'est parce que bien sûr, le réflexe demandait une réponse en 20 millisecondes. Il y a encore 10 ans, 20 ans, on appelait ça des problèmes d'effet chewing-gum entre spécialistes. Mais si vous imaginez que vous avez un casque sur la tête ou dans les grands écrans, que vous tournez la tête et puis que c'est l'image est affichée 50 millisecondes après, qu'est-ce que vous avez l'impression que votre soleil se déplace, Donc vous êtes dans un moment un peu stressant. Et je dis ça, vous êtes spécialiste, mais quand les gens ne sont pas spécialistes, je leur dis, mais vous êtes rentré dans la salle, vous êtes venu vous asseoir, et je leur dis, est-ce que vous avez vu les bâtiments bouger ? Et ils disent, ben non. Je dis, mais vous imaginez quand même qu'à chaque instant, dans les yeux, on captait des images totalement différentes. Les gens ne se rendent pas compte de la difficulté, du challenge pour le cerveau, pour le système visuel, puis pour le cerveau. Vous vous déplacez, je me déplace ici, mais mon point de vue change constamment, mais mon cerveau traite ça, et a appris à traiter tout ça, pour en cohérent avec son système vestibulaire, puis avec la proprioception musculaire, etc. Donc nous, avec nos technologies, on vient perturber tout ça. Maintenant, on arrive à résoudre un peu toutes ces questions-là. Alors, vous me dites, mais on n'avait pas ces problèmes-là quand on faisait du jeu vidéo classique ? Bien sûr que non. Quand vous êtes, alors ce que j'appelle, bon pour vous, je pourrais dire une version non proprioceptive, c'est-à-dire le corps n'est pas, dans le sens, le corps n'est pas dans l'environnement virtuel. On est à distance. Quand la personne fait un jeu vidéo, ce qui va arriver, c'est classique, les gens sont en train de faire un jeu vidéo, mais inconsciemment, la vision périphérique est stabilisée. Donc la vision périphérique est évidemment indispensable, même s'il fait noir dans la pièce, il y a le cadre de l'image, donc ils ont une référence stable. Et donc, ils ne sont plus en proprioception, ils ne sont plus tellement corporellement dans cet environnement virtuel, artificiel, mais au niveau cognitif, évidemment, ils sont totalement immergés dans leur jeu vidéo. Ils y passent des fois des heures et des heures, totalement immergés au niveau intellectuellement dans le jeu. Par contre, si vous leur mettez un casque, il n'y a plus de référence au monde réel. Alors, il faut faire bien sûr attention dans ces cas-là. Alors, la question, c'est est-ce qu'on fait vraiment un mouvement identique au monde réel ? C'est-à-dire, c'est la notion de chien de Piaget, au niveau des chaînes sensorimoteurs. Est-ce qu'on va utiliser un chien sensorimoteur ? La personne va tourner la tête pour voir son environnement, comme dans le monde réel, et va être manipulée avec ses mains les objets. L'utilisation par un chien, on peut prendre des métaphores. Les métaphores, c'est par exemple, bien sûr, tous les joueurs de jeux vidéo ils connaissent, en appuyant sur un bouton, ils changent de point de vue à droite et à gauche. C'est évidemment pas naturel. Attention, il faut faire attention, c'est pas naturel au début, mais après ça devient une chaîne sensorimoteur et artificielle. Hein, le sens artificiel, c'est parce qu'il y a la technologie. C'est plus évidemment le sens induitif, une possibilité énorme et qui implique des questions sur la représentation du corps. Ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment on va être présent dans cet environnement? Comment on va être présent? Est-ce qu'on va être passif ou actif? Déjà, c'est une question qui intéresse les artistes, qui intéresse les utilisateurs. Est-ce qu'on va être seulement observateur ou est-ce qu'on va être actif? Est-ce qu'on va avoir une immersion visuelle distante, on l'a vu ici, ou est-ce qu'on va avoir une immersion totalement, le corps entier dans cet environnement? Et après, c'est une question qui intéresse beaucoup les gens du cinéma qui veulent se lancer dans ces domaines-là. Si je suis dans la scène, je suis dans l'histoire, est-ce que j'ai un rôle ou pas? Est-ce que je suis extra-diégétique, c'est-à-dire je n'interviens pas, je suis là, mais j'observe, je suis un peu un fantôme, ou est-ce que je suis une personne de la scène, de l'histoire qui est racontée? Et bien dans certains cas, je suis le personnage principal. Il y a des applications où on filme des acteurs qui s'adressent à la personne. Et donc, vous êtes au cœur de l'histoire, vous êtes encore un spectateur, mais vous êtes au centre. Et après, bien sûr, on peut être tout seul, on peut être à plusieurs. Et la représentation du corps, une autre question qu'on n'a pas le temps de traiter, mais de pouvoir discuter, c'est est-ce que je le représente ou pas? Si je manipule, est-ce que je vois mes mains, ou est-ce que je vois quelque chose qui symbolise mes mains, ou est-ce que je ne représente rien du tout? Et ça, c'est une question. Et si je le représente mon corps, est-ce que je le représente d'une façon approchée au monde réel, ou quelque chose de totalement différent? Et ça va être la présentation suivante, où la représentation du corps se fait différemment. Donc là, il y a des cas extrêmes, pour terminer, on avait modélisé une pièce, admettons qu'on avait modélisé cette pièce-là, et après, on demande à la personne de s'asseoir. Alors j'ai dit, tiens, ça va être amusant de faire ça. Mais la première fois que j'ai fait moi-même, je me suis assis, ça m'a paru extrêmement bizarre, je me suis assis sans le voir. Et là, ça pose question, on se dit, mais... Et on se sent, évidemment, au niveau musculaire, tactile, etc., pour que c'est plus musculaire. On se sent en train de s'asseoir, mais on ne se voit pas s'asseoir. Donc vous voyez un peu tout ce que ça peut impliquer comme intérêt, comme question qui se pose à ces questions-là. Et encore un slide, quand même, terminé, mais ça c'est plus pour vous prévenir. Vous voyez qu'on joue quand même sur des choses un peu fondamentales pour l'être humain. Donc il faut faire aussi attention. Donc il y a des questions qui vont se poser au niveau du pack sanitaire. D'avoir, c'est de faire ça. Quand on travaille avec des spécialistes, on fait attention, bien sûr, de ne pas faire n'importe quoi. Et donc je peux vous informer que, un peu grâce à ma sollicitation depuis 2 ans, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire va se préoccuper de ce problème-là, puisque maintenant, la réalité virtuelle va être introduite auprès de tout le public, donc il va falloir être assez prudent. Alors, je ne pense pas, mais on discutera sur les sécurités physiques, mais surtout les incohérences sensorimotrices qui vont intervenir. Le côté, évidemment, induction, jeu, est-ce que les jeux seront plus addictifs, est-ce qu'on sera plus immergé corporellement ou pas, ça c'est question pour les psychiatres. Et les questions ophtalmologiques sont importantes aussi, puisqu'on a la rupture, la commotion d'urgence des yeux. Enfin, c'est toutes les questions qui se posent. Je fais partie du groupe de réflexion des experts pour la vision stéréoscopique. Vous savez que la vision stéréoscopique, il ne faut pas l'utiliser avant 6 ans, et très peu jusqu'à 12-13 ans. Donc ça, c'était la recommandation qui est sortie en 2014. Et là, la question va se poser, qui va être un peu plus complexe à résoudre, puisqu'on voit qu'on intervient sur tout l'aspect sensorimoteur de l'être humain et l'aspect cognitif.